présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Voilà ici. C'est beau ce château. Il vous dit, c'est pas un château, mais une église. Encore une demande, c'est quoi? Il vous dit, une maison où l'on prie. L'enfant aux les épaules lui dit, c'est beau tout de même. Il vous demande, appelle comment? Didier. Voir le sang des dieux. Moi, c'est qui? L'enfant va, il dit. Il lui dit, je ne peux pas te donner de l'argent puisque tu n'as pas d'écran. Mais si tu veux, on peut t'acheter quelque chose. Il lui dit, oh oui, des gâteaux. Il se lève et lui dit, viens, Didier le suit et sort du parc. Puis cherche un magasin d'alimentation. Et il trouve un de l'autre côté du quai. Didier lui dit, c'est grand cette ville. Moi, je viens de la campagne. Ils sont entrés dans le magasin. Un magasin où l'on vend presque tout. N'importe quoi. C'est un bric-à-brac. Un vendeur en blouse grise, maigre, cheveux roux, gros, laid, demande. Et j'irai. Cliff lui dit, c'est pour le petit, qu'est-ce que tu veux? L'enfant lui dit, des gâteaux et du chocolat. Le vendeur lui montre des paquets de gâteaux et de chocolat. L'enfant choisit. Il prend 3 paquets de gâteaux et 2 tablettes de chocolat. Il dit au commerçant, vous mettrez aussi 3 pommes. Ils prennent tout ça, payent et s'en vont. Et s'en retourne au parc. Il s'assoit sur un banc du parc. Le petit Didier mange. Puis lui demande, que vas-tu faire après? Tu as un endroit? L'enfant lui dit, non. Dans la rue, c'est bien. Il lui dit, oui, mais c'est dangereux. Il a envie de faire quelque chose pour ce petit. Mais quoi? L'enfant a fini de manger. Il se dit qu'il va l'emmener chez lui pour qu'il ne traîne pas. Mais je me souviens qu'il a rendez-vous avec Judith. Il a des codes portables et en panne. Il dit au petit, attends-moi là, je vais téléphoner. Et il sort du parc pour aller à une cabine dans un café. Pour aller au café, il faut traverser le carrefour qui est en face de la cathédrale. Une fois dans le café qui fait brasser, il y a du monde. Il faut qu'il commande quelque chose pour demander à téléphoner. Il reste à la banque et commande au barman un gros cheveux blonds, chemise blanche, il lui dit, un jus d'orange, s'il vous plaît. Le barman le regarde d'un mauvais œil. Il commande du jus d'orange, à son âge, il le sert. Cliff paye et dit, je peux téléphoner? Oui, c'est en bas. Descend les escaliers. Il y a déjà quelqu'un à la cabine téléphonique, une femme. Qui parle? Enfin, elle sort. Il met sa carte dans l'appareil et fait le numéro. Ça sonne. Enfin, ça décroche. Allô? Judith, c'est moi, Cliff. Je téléphone, c'est pour te dire que je ne pourrai pas venir cet après-midi. Que se passe-t-il? Rien. J'ai rencontré un petit gosse seul et je veux l'aider. Elle lui dit, je ne comprends rien à cette histoire. Tu te prends pour Saint-Bernard maintenant? Il lui dit, non, mais tu le voyais, il est si petit et sans défense. Elle lui dit, il y en a des milliers comme lui. Peut-être, mais lui, tu es tombé amoureux, ma parole. Il lui dit, non, une frustration de paternité. À ton âge? Oui, pourquoi pas? Elle lui dit, tu te moques de moi? Non, je t'assure. Elle lui dit, bon, je te laisse ta journée pour jouer les Saint-Bernard. Il lui demande, tu as forché? Elle lui dit, non, puisque c'est pour faire une bonne action. C'est très bien, mais je ne comprends pas. C'est tout ça, tu m'expliqueras. Il lui dit, je te le présenterai. Elle lui dit, bien, mais je ne joue pas à la maman. Allez, à ce soir. Oui, je t'embrasse. Et il a quitté le café. Quitté le café sans avoir vu son jus de fruits. Arrivé à la place, le petit a disparu. Cliff le cherche aux alentours. Demande aux passants. Personne ne l'a vu. Plus de Didier. qui s'assoit un moment sur le banc et attend. Puis, au bout d'un moment, il s'en va. Il est triste et se demande où il a pu aller, ce petit. Il est si petit, il va se faire tuer, voler. Cliff ne sait pas ce qui est arrivé à Didier, mais vous, vous le savez peut-être si vous avez eu la connaissance du sang des dieux. Pauvre Didier. Lendemain soir, lorsqu'il revoit Judith, Mandre, en lui servant un jus d'orange. Et le petit, il va bien ? Cliff lui dit, il a disparu. Judith lui dit, il a dû trouver des enfants de son âge et est allé jouer avec eux. Cliff lui dit, souhaitons que ce soit vrai. Elle lui fait, si tu en veux un, je peux t'en donner. Il la regarde dégoûtée, elle lui dit, nous avons des maisons pour enfants qui traînent pour éviter qu'il leur arrive quelque chose. Hein? Alors, si tu veux, je lui dis, non, merci. La vie reprend. Cliff passe de temps en temps à Notre-Dame et pense à Didier et se dit qu'il ne reverra plus. Au siège, le lapin est calme. Les stagiaires sont arrivés et elle a de quoi rêver. Elle en a mis un à côté de son bureau. Elle est toute excitée. Il n'y a rien que de savoir que derrière sa cloison se trouve un bel éphèbe. Elle en oublie un peu Cliff, qu'elle commence à trouver un peu trop vieux par rapport aux arrivants. Elle n'en veut plus à Judith. Elle se dit que Judith peut se garder tous ses hommes et qu'elle vaut mieux. Elle en vaut mieux. Un soir, Cliff revient du cinéma, il entre chez lui à pied, il fait doux, il y a peu de gens dans les rues. Cliff ne se presse pas, il marche ses mains dans les poches, dans les rues presque désertes. Tournant dans une rue, il entend comme un bruit, un ronflement de moteur et qui grandit petit à petit. Il se dit que ce doit être les chantiers qui travaillent la nuit. Mais tout d'un coup, il voit dans la rue des camions accompagnés de motards. Il se retourne pour sortir de la rue et voit que de l'autre côté, c'est la même chose. Il se dit, merde, ça recommence. Ce doit être les hommes en noir. Vite, il se cache dans un renfoncement d'une porte d'allée. La porte est malheureusement fermée. La rue est populaire. Les murs, les maisons sont pauvres, constables. Il y a du pavé sur la chaussée qui est peu large. Les camions ont envahi la rue. En sortent des hommes armés de mitraillettes. Le bruit a réveillé les gens qui ouvrent leurs fenêtres pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils voient les hommes en noir, ils poussent des cris de terreur, panique, et ferment leurs fenêtres. Les hommes en noir défonce les portes d'allée et entre. Cliff reste caché et tremble. Il a peur. Il entend des cris. Du coup de mitraillette. Des portes qui claquent. Des vitres brisées. Des meubles que l'on jette à terre, même des corps. Les gens hurlent. Ça pleure. Ça crie. Il fallait sortir les gens de force. Mitraillette à la main. Ils sont tenus de nuit. Même nus. De tout âge, et même des enfants, des femmes, donnant dans les bras leur bébé. Ça pleure, ça tremble. Cliff n'est pas remarqué. Personne ne le voit pour le moment. Les hommes en noir poussent les gens dehors. Ils tremblent. Ils ont peur qu'on veut les tuer. Les hommes en noir les mettent en rang. On entend encore le bruit des coups de feu, des morts dans les immeubles. Tout d'un coup, un homme se met à crier. Ne vous laissez pas. Tuez. Battons-nous. Les gens le regardent. Le crie. Allez. Et il lance un pavé à un homme en noir qui ne l'a pas vu, vise et le tue. Les hommes en noir le voient, vise et tire. Les gens tombent. Tout d'un coup, on entend des cris. Ils viennent. Ce sont des hurlements. Tous restent sans bouger. Les hommes en noir demande ce qui se passe. Et tu n'as pas, qui n'a pas été condamné parce qu'il y a un mur. Les hommes sortent, sautent le mur. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, ont des fusils, des bombes lacrymogènes. Ils sont en loc. Ils ont sauté le mur pour s'attaquer aux jeunes Noirs. Ils sont de plus en plus nombreux. La rue est envahie. Et se trouve prisonnier. Ils ne peuvent pas rejoindre les autres. Alors, une bataille commence entre les hommes noirs et les pauvres. Une bataille corps à corps, corps à corps. Ils sont aussi des corps tombent. Les bruits des balles qui sont tirés, les bruits des gens qui crient. Des femmes, des enfants au milieu de la furie. Ils savent où se réfugier. Il y a de la furie. Des voitures, des camions, des hommes en noir qui brûlent. La bataille fait de plus en plus rage. L'homme en noir, il aimerait bien, c'est avoir du renfort. Et puis les hommes en noir sont bien armés, mais ils gagnent nombre. Un commun noir doit se battre avec trois hommes en loc, nègres et fiévreux. Le chef des hommes en noir veut demander du renfort, mais il est pris, entouré d'émeutiers, il ne peut pas téléphoner. La rue devient un véritable champ de bataille. Philippe, petit à petit, reprend ses esprits et comprend ce qui se passe. Lorsqu'il voit tout ça, son sang. Des gènes. Il voit ces gens qui se battent là-haut et décide de se battre lui aussi. Il entre dans la bataille, les poings nus et fonce sur les hommes en noir qui essayent de s'attaquer à une forme et une forme d'enfant. Se bat comme un tigre. Il tient par derrière une personne et lui donne un pont dans les reins. Ce qui fait retourner et se tordre de douleur le manoir. Très vite, il est en sueur. Et plus il se bat, plus il est passionné et en fureur. Il a réussi à ramasser à terre un poignard d'un homme en noir. Enfin, il a une arme pour se battre corps à corps avec l'un d'eux. Il fonce sur les hommes en noir. Alors, il le rencontre avec le poignard à la main. Il est souple, agile comme un tigre. Et les poignards. Ça va très vite. Il n'a pas le temps de réagir. Il sent gicle son visage. Il devient un animal sauvage ou un vieux barbare. Il s'avance par derrière et le barbare qui essaie de s'attaquer d'un coup. Par derrière, il attrape et lui tranche la gorge. Il lâche le pauvre et l'homme en tombant à terre à la renverse. Autour de lui, ce n'est que scène de tuerie. Une haine des deux côtés pour ces hommes et les gens, parce que les femmes aussi, à se battre comme des bêtes. Il ne peut pas faire attention à lui. au milieu de tout ça. Non, je ne peux pas faire attention à lui au milieu de tout ça. Ce qui fait qu'il peut se déplacer sans être vu. Et puis il se déplace par saut. Et avant de se déplacer, il choisit sa victime. Ses vêtements sont déchirés, sales, en sang. Il est tellement pris dans sa fureur de tuer qu'il ne pense pas qu'il peut, lui, être tué. Sa rage devient un plaisir, un jeu délicieux. Le jeu de prendre par surprise quelqu'un et de le tuer. Tous ses sens sont en éveil. Il est en sueur. Et je n'ai jamais senti aussi vivant. Se battre donne une jouissance plus forte que toutes les autres jouissances, même sexuelles, qui a l'air bien plate à côté de celle-là. L'homme retrouve ses origines et ses instincts dans la bataille. C'est un héros, être un guerrier. Éprouve cette jouissance. Il la reconnaît pour la première fois et la compare. Enfin, ses sens lui apportent des choses délicieuses. Et ses sens vont au-delà de tout. Mais en même temps, il reste lucide. Il est dans le jeu. Il se bat à merveille. Il se retire pour choisir sa victime. Il fonce dans la bataille. Dans la bataille. Comme une paix. Fonce sur sa victime. Comme une paix. Il ne sait pas combien d'hommes en noir il a tué. Au moment où il fonce sur un homme en noir, l'homme en noir se retourne et lui fait face. Ils se font face. L'homme en noir a une mitraillette. Flip la touche au poignard. L'homme vise pour tirer. Flip lance son poignard qui est allé dans le corps de l'homme qui tombe à terre. Va récupérer son poignard et prendre la mitraillette. Prend le poignard en le sortant du corps de l'homme. Et il s'en va. Et là, il se met à une fenêtre d'un appartement tiré sur les hommes en bas. Il vit et tire. Il prend son temps. Il croit qu'il est sûr de ne pas être blessé, tué. Ce que les gens ne le voient pas. Il continuera à tirer tant qu'il aura des balles. Il a plusieurs. Personne ne fait attention à lui. Tout d'un coup, un homme noir sur un camion l'a vu. Et vise. Tire, clique, deux fois. Et tire. Le manoir tombe sur le camion. Mais un homme, l'autre noir, l'a vu. L'a vu qu'il tirait. Il signe à des hommes. Tout à coup, il entend du bruit dans l'allée. Vite, il décide de monter. Il entend que les autres montent les escaliers. Il monte le plus vite qu'il peut. Arrivé au dernier étage, se rapproche. Cliff ouvre une porte. Quel grenier. Vite, il ouvre une trappe qui mène au toit. Là, il se soulève et monte sur le toit. Là, il court sur le toit. Toit en tuiles qui est en pente. Il entend les hommes qui vont monter sur le toit, eux aussi. Il se retourne, prend une arme, vise et tire. Tire sur les deux hommes qui sont tombés à la renverse. Dis-toi. Cliff voit qu'il n'y a plus d'autres hommes. Alors, essoufflé, il court sur le toit. Mais, on lui tire dessus, d'en bas. Il se met à courir. Il saute sur un autre toit, dont la toiture est en zinc, pour éviter les balles. Il court, il court. Il accorde des balles qui sifflent à ses oreilles. Il panique. Il court. De plus en plus vite. Mais en même temps, il est exalté, de plus en plus exalté. Parce que ça lui donne une jouissance aussi. Il court de plus en plus vite. Il saute sur un autre toit. Et voit une trappe. Il est en âge. Vite. Il casse la vitre pour entrer dans la trappe, dans le grenier. Il est arrivé, saute le grenier et vite, il entre dans le grenier. L'immeuble est vide. Sort de l'immeuble. Et là, devant la sortie, l'attend un homme en noir qui lui sourit et prend son arme. Cliff lui lance son poignard. s'enfonce dans la poitrine de l'homme. Le soldat lâche l'arme. Il est plus de douleur. Mais il retire le poignard. Vise avec sa mitraillette et tire. L'homme est tombé à la renverse. Clip, vite, le pousse, reprend son poignard et sort de l'allée. Il se retrouve dans la bataille, essoufflé, en nage, mais heureux d'avoir réussi. Il se lance dans la bataille en tuant, en tirant sur les hommes qui tombent. Dans la bataille, une jeune fille qui se défend comme elle peut. Elle est prise entre deux hommes en noir. Ils veulent la prendre. Elle essaye. Elle hurle. Les hommes la tiennent bien pour la prendre. Clip fonce sur les hommes. Mitraillette. Et vise. Clip a tiré. Mais deux hommes l'ont vu. Il n'a pas réussi à les tuer. La femme est tombée à terre, à pleurer. Les deux hommes font face à Cliff. Ils sont armés. Cliff recule. Les deux hommes s'avancent. Cliff sent qu'il touche une voiture, une carcasse de voiture. Alors, il monte dessus. Sans se retourner et fait face aux hommes. L'homme le vise, Cliff aussi, Cliff fait « Ah !» en montrant derrière eux. Il se retourne et Cliff en profite pour tirer dessus. Les deux hommes sont tombés à terre. Vite, Cliff va vers la jeune fille qui pleure. Et il la relève, il lui dit « Je vais vous sauver de tout ça. » Il la prend par le bras, elle tremble toute. La guide au milieu de la bataille, de la mêlée. Il la protège, les hommes en noir les voient, ils les poursuivent. Cliff et la jeune fille se mettent à courir au milieu de la foule. Cliff, le hasard l'a mené vers la fin de la rue, le bout de la rue, là où sont garés les camions et les voitures des hommes en noir qui ont été brûlés. Mais Cliff voit qu'il reste dans un coin entre mur une moto en bon état. Il dit à la jeune fille, la moto. Court vers la moto avant que les autres puissent les rattraper. Monte sur la moto tous les deux. La clé est restée dessus. Cliff en vitesse met la moto en route. Les hommes tirent. Mais c'est trop tard. Ils sont trop loin. Cliff fonce au milieu. Les émeutiers pour trouver la sortie de la rue. Lorsqu'ils voient une moto foncer sur eux, ils s'écartent pour éviter d'être écrasés. On les laisse passer. Cliff fonce et roule sur des cadavres. Il réussit franchir le barrage. Oui, il réussit à franchir le barrage. Qui a été déplacé. Et fonce. Il fonce dans les rues de Paris sans réfléchir. D'un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans une rue déserte près de la tour Eiffel. La fille est plaquée contre lui, tremblante. Lui est essoufflé, mais heureux. Il lui demande « Ça va ?» Elle lui dit « Oui, je crois. » Il lui dit « Je vous raccompagne où ?» Elle lui dit « Je sais pas. » Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. Non. Alors, je vous amène à votre domicile. Elle lui dit, oui, c'est vers le Luxembourg. Hein? Il l'amène vers les jardins du Luxembourg. Il a des difficultés à lui indiquer la rue. Puis, l'a fait arrêter dans une rue. Il descend de moto. Elle est seule, robe blanche tachée, déchirée, blonde, belle, dans les 15-16 ans. Il la trouve très belle et perdue. Il demande, je peux... Si vous voulez vous raccompagner, elle lui dit non, merci. Il lui dit, il demande, vous voulez qu'on se revoie? Elle lui dit oui, je vous remercie pour tout. Il lui demande quand? Elle réfléchit et lui dit demain, au jardin du Luxembourg, vers le plan d'eau à 15h. Il lui dit j'aurais aimé. C'est vous emmener au restaurant, elle lui dit, alors à 19h, elle l'embrasse sur la joue, merci, et s'éloigne. Il la voit démunie et fragile. Elle entre dans une allée, il attend un peu et s'en retourne. En laissant la moto, il rentre chez lui, épuisé, mais heureux, comme un héros. Et puis, il a sauvé une jeune fille, belle comme une fée. Les rues sont calmes. Entre chez lui, prend une douche. Et se couche. Il fait des rêves étranges. Il tue, tue. Et plus il tue, plus il y a du monde à tuer. Se réveille en sueur. Il est en sueur, mais bien, oui, bien. Il se souvient de la jeune fille, la trouve très belle et douce. Le soir, à 19h, il ira la voir. Dans la journée, il téléphone à Judith pour lui dire qu'il ne peut pas la voir ce soir. Il lui dit, j'étais pris dans une émeute terrible. Il y a eu beaucoup de morts. J'étais obligé, même, c'est de me battre pour sauver ma peau. Et seul, des pauvres gens, ce sont les hommes en noir qui ont commencé à faire une tuerie. Et les autres sont venus défendre les pauvres. Alors on s'est battu dans toute la rue. J'ai même tué quelques hommes en noir. Au couteau. Et puis, ensuite, j'ai eu une mitraillette. J'ai même été poursuivi sur les toits. Si tu avais vu ça, j'ai sauvé une jeune fille que trois hommes voulaient violenter. Alors, nous sommes donné rendez-vous ce soir au restaurant. Tu demandes, c'était si terrible que ça, cette émeute ? Il lui dit, oui, il y a eu beaucoup de morts. Elle lui dit, tu aurais pu te faire tuer. Il ne faut pas rester lorsqu'il y a une émeute. Tu dois t'enfuir. Il lui dit, c'était impossible. Ils avaient barré la rue des deux côtés et nous ont envahis. Ils avaient des camions et des motos. Jésus lui dit, fais tout de même attention. Évite de sortir le soir. Elle lui dit, ne t'en fais pas. Je sais me battre, et lorsque je me bats, je suis plus fort. Elle lui dit, jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un de plus fort que toi. Bien, je te laisse. Il y a Serge ce soir, il faut que je lui fasse des frites. Elle lui demande, il couche chez toi ce soir? Elle lui dit, te fais pas de soucis. Si tu connaissais son avenir, tu ne serais pas jaloux. Il a besoin de tendresse lui aussi. Il se dit, c'est une vraie mère Teresa. Qu'est-ce qu'elle a comme jeûne à s'occuper? Lui dit, à demain, je te raconterai tout. Je t'embrasse, moi aussi. Et elle a raccroché. Elle est furieuse contre les hommes en noir qui ont failli tuer Cliff. Prend son téléphone et fait un numéro. Allô? C'est moi, Judith. Je veux lui parler. Merci. Bonjour, monsieur. Nous avons un gros problème. Il y a les hommes en noir qui ont failli tuer Cliff Recourtois. Il faut que vous leur donniez son signalement pour qu'ils ne le tuent pas. Je compte sur vous. Bien. Et elle raccroche. avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Terre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.